Tous les jours sur France Bleu Loire-Océan, entre 10h et 11h, on cuisine ensemble dans la vie en bleu, à la découverte des chefs de notre région et des producteurs aussi de notre terroir. Le dimanche, nous avons le best-of des invités de Gilles Colliot la semaine dernière. Par exemple, Gilles avait reçu la diététicienne nantaise, donc Margot Le Thor, pour parler de céréales complètes.
Alors, le thème aujourd'hui, ce sont les céréales complètes. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que sont ces céréales complètes ?
Bien, les céréales complètes, c'est vrai que quand on parle de diététique, on pense tout de suite à mieux manger, mais il y a aussi la notion de comment mieux choisir ses aliments. Les céréales complètes, il faut savoir qu'elles jouent le rôle de féculents, donc elles tiennent au ventre sur le long terme. Mais ce sont des céréales qui vont tenir plus longtemps au ventre que des céréales blanches. On va trouver par exemple le pain de mie ou les biscottes, mais complètes aux céréales ou aux graines. Vous pouvez voir ça sur l'emballage quand vous en achetez. On a également les fruits oléagineux. C'est tous ces petits fruits à coque. Pour l'apéritif, on a les traditionnelles cacahuètes, par exemple. Eh bien, les cacahuètes, les noix, les noisettes, les amandes, toutes ces graines font aussi partie des céréales complètes. On peut les introduire dans des recettes sucrées comme salées. On a aussi le boulgour, le quinoa, mais aussi pâtes, riz et semoule complète. Et enfin, on va trouver les légumes secs. Alors, vous connaissez peut-être les traditionnelles lentilles, ou bien les haricots rouges, les haricots blancs, et les petits derniers, les flocons d'avoine, avec lesquels on peut réaliser du muesli ou des parts de céréales, par exemple.
Donc tout ça, ça fait partie de cette famille des céréales.
Tout à fait.
Les bienfaits nutritionnels de ces produits.
Eh bien, ces céréales vont contenir déjà plus de fibres. Alors les fibres, on va les retrouver également dans les fruits et légumes. Ça permet de tenir au ventre un petit peu. On a cet effet satiétogène. Ça permet de bien digérer également. Dans les céréales complètes, on va aussi avoir, très important, un index glycémique qui est bas. Est-ce que vous connaissez ce mot-là ?
Non. Déjà, satiétogène.
Ah oui. Alors, l'effet satiétogène, je me suis mal expliqué, c'est le fait que ça tienne au ventre. Quand on mange des pâtes ou du pain, voilà, ça va nous tenir un peu plus au ventre.
Ça, ça peut être sympa au niveau du Scrabble, hein,
satiétogène. Ah bah là, vous allez récolter des points. Et les fibres vont avoir cet effet satiétogène, d'accord, puisqu'elles vont gonfler dans l'estomac, et le temps qu'elles dégonflent, eh bien on aura faim, mais d'ici quelques heures.
D'accord.
Donc alors l'index glycémique bas, qui récolte beaucoup de points au Scrabble, hein, vous avez raison, eh bien en fait un index glycémique bas, ça veut dire que la glycémie, le taux de sucre dans le sang, il augmente, mais pas beaucoup. Donc les céréales complètes ont un index glycémique bas comparé aux céréales blanches. C'est pour ça qu'au niveau, quand on parle de diététique, on a tendance à privilégier les pains complets plutôt que les pains blancs.
D'accord, donc c'est mieux évidemment si on veut avoir un peu moins de sucre dans son organisme.
Tout à fait, on va avoir moins de sucre rapide et du coup forcément on aura moins de fringales par la suite. Et les céréales complètes sont aussi très riches en protéines végétales, donc pour les personnes végétariennes ou les personnes qui veulent perdre du poids, eh bien sachez qu'il y a beaucoup de protéines végétales dans toutes ces céréales.
Alors moi je pense, quand je pense céréales, je pense au petit déjeuner, mais là on va évoquer évidemment les céréales tout au long de la journée, hein.
Oui, tout à fait, mais c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé de flocons d'avoine et de fruits oléagineux, eh bien ces céréales complètes peuvent s'introduire dans du muesli ou des barres de céréales, par exemple pour le petit déjeuner. Puisque la journée commence par un petit déjeuner.
Ouais. Juste, tiens, une barre de céréales. Moi, je suis intéressé. Je veux peut-être faire des activités physiques cet été. Vous avez des recettes de barres de céréales ? On peut faire sa propre barre de céréales ?
Alors, tout à fait. Je vous conseille de faire vos barres de céréales vous-même. Donc, vous retrouvez la recette sur mon blog culinaire. En fait, les barres de céréales, c'est tout simple. Vous allez mélanger des flocons d'avoine qu'on peut trouver en vrac. Vous allez ajouter des graines oléagineuses. Alors, en fonction de ce que vous aimez, lin, tournesol, sol, sésame, noisette, ce qui vous fait plaisir. Vous allez mettre un petit peu d'huile végétale et un petit peu de miel, parce que bien évidemment, il faut que ça ressemble, voilà, il faut que ça soit lié. Vous allez mettre aussi quelques fruits secs, raisins secs, abricots secs, des figues séchées. Vous tassez bien ceci, moi je vous conseille de le tasser dans des petits moules à financier, comme ça vous aurez la taille idéale pour une barre de céréales. Vous mettez au four, et à la sortie du four, vous attendez un petit peu que ça refroidisse, et vous avez vos barres de céréales beaucoup plus saines, puisque moi je mets un peu moins de gras et un peu moins de sucre, et elles sont surtout beaucoup moins chères que dans le commerce.
Voilà une première idée, hein, si vous voulez faire vos propres barres de céréales. On cuisine donc ces céréales complètes, c'est facile à cuisiner. On essaie aussi peut-être de diversifier diversifie un petit peu sa gastronomie. On essaie de trouver de nouvelles idées. On peut donner quelques idées de céréales, parce qu'on pense au riz, on pense par exemple aux graines de couscous, mais on peut avoir d'autres céréales dans ce sens.
Oui, bien sûr. Après, l'idée des céréales complètes, c'est pas forcément de manger que ça, déjà, mais c'est, comme vous avez dit, de varier. Plus on varie l'alimentation, plus on a de chances de mieux manger.
Et vous avez régulièrement, parmi les invités de Gilles Colluau dans La Vie en Bleu, on cuisine ensemble, donc, cette diététicienne nantaise, Margot Le Thor. D'ici quelques minutes, on met en avant ce fromage italien, la mozzarella, avec le chef Alexandre Fichard de l'Auberge du Sens à Nantes. C'était UB40. On cuisine ensemble dans La Vie en Bleu tous les matins entre 10h et 11h le dimanche. C'est le best-of, le meilleur de la semaine passée. Les invités de Gilles Colliot qui avaient reçu donc le chef Alexandre Fichard de l'Auberge du Sens à Nantes, route de Rennes, pour parler de mozzarella.
Oui, c'est vrai que la mozzarella, c'est le fromage le plus utilisé au monde, parce qu'évidemment, on l'utilise beaucoup dans les préparations de pizza. Pourquoi la mozzarella ? Pourquoi vous avez voulu parler de ce fromage en particulier ?
Bah, pour justement faire un petit peu la lumière, parce qu'il y a mozzarella et mozzarella, hein, comme tout à chacun. On s'y perd un petit peu. Il y a certaines mozzarella aussi qu'on a du mal à trouver dans le commerce, et pourtant elles sont extraordinaires. Moi, je travaille essentiellement de la mozzarella fumée.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est une mozzarella, donc elle se nomme très exactement de la scamorza. Mm-hmm. Alors, vous avez deux sortes de mozzarella fumée. Vous avez la scamorza ou alors la fumicata provocata. Mm-hmm. La fumicata provocata, c'est une mozzarella qui est fumée, qui est une mozzarella fraîche qui est fumée au foin, un peu plus marquée, mais qui reste relativement crémeuse. Mm-hmm. Que la scamorza, elle, c'est une mozzarella à pâte dure et elle est affinée après pendant 15 jours. Donc D'accord. on a ce petit côté fumé. Mais elle est beaucoup plus douce que la fumicata provocata.
Vous pouvez nous aider à choisir une bonne mozzarella. Qu'est-ce qu'il faut garder en priorité quand on choisit une mozzarella ?
Les appellations, on reste quand même, on le répète pas assez, mais les AOP, les IGP, faut rester là-dessus. Une mozzarella, déjà, une bonne mozzarella, à la base, c'est fait avec du lait de bufflone. Mm-hmm. Donc quand vous trouvez une mozzarella marquée di bufala, Campania, puisque la mozzarella est originaire de l'Italie, dans la région de la Campanie. Mm-hmm. Là, on vous pouvait être sûr que c'est une vraie mozzarella.
D'accord.
Après, effectivement, aujourd'hui, on arrive à trouver des mozzarella au lait de vache qui sont aussi très bonnes, mais qui vont se travailler différemment que la bufala.
Bon, alors moi je vous écoute ce matin, quand on parle de mozzarella, on pense tout de suite à l'été, à les petites tranches de tomates là coupées avec un morceau de mozzarella, une tranche de tomate et un morceau de mozzarella avec un filet d'huile. Ça c'est somptueux quand les tomates sont bonnes, ça se marie parfaitement bien avec la mozzarella.
C'est ça. Donc moi j'ai une petite préférence, bon j'adore la bufala, mais j'ai une petite préférence quand même pour de la burrata. Ouais. Qui avait avec les tomates. Donc la burrata, c'est pareil, c'est une mozzarella qui est encore différente. En fait, c'est une poche de mozzarella et à l'intérieur, elle est farcie de crème. Mm-hmm. Donc elle est beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus crémeuse et avec des tomates, que ce soit cerises ou même des tomates anciennes, hein, qu'on arrive à trouver maintenant facilement. On peut relativement arriver à se faire plaisir. Petit filet d'huile d'olive, un peu de basilic. Ça manque beaucoup d'assaisonnement quand même, la mozzarella. Hein, c'est un fromage frais, mm-hmm. hein, donc faut relativement beaucoup de sel, beaucoup de poivre. Et puis après, on peut se faire plaisir. Au lieu de, on change le basilic, on met de l'estragon, on peut mettre de la ciboulette ou tout simplement des poivres. Mm-hmm. Y a certains poivres qui se marient très très bien aussi avec la mozzarella. Je pense au poivre de Vauzy Périphérie, qui est un poivre de Madagascar qui est assez puissant, mais puissant dans le côté aromatique, pas dans le côté piquant.
Très bien. Donc là, il faut pas hésiter, hein, pour relever un petit peu ce fromage.
C'est ça. C'est pas un fromage qui est relativement très salé. Hein. Mmh. C'est la mozzarella. Faut vraiment la prendre comme un fromage frais, au même titre que le fromage frais, que le fromage blanc, le fromage frais, le mascarpone, par exemple, ou de la ricotta également. Sont des fromages qui contiennent très peu de sel.
Et on va s'amuser avec ce fromage, hein, ce matin. C'est aussi le principe de cette émission, parce que là, vous m'avez parlé de salade. On va pouvoir le retrouver peut-être dans un plat et même peut-être aussi en dessert.
Exactement. Comme c'est un fromage frais, on peut le travailler en dessert. Et ce n'est pas choquant.
Mais on n'y pense pas comme ça à première vue.
Non. On n'y pense pas comme ça, effectivement. Par contre, le mascarpone, qui se fait très bien dans Exactement. Les tiramisu, on va l'utiliser dans le tiramisu et ça choque personne. Mmh. Donc, bon, par contre, il y a beaucoup plus de travail. En entrée, la mozzarella, c'est relativement simple. On la coupe en deux, on l'assaisonne, voilà, on met avec quelques tomates et hop, on peut se faire plaisir. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué en dessert, parce que là, ça va demander une chauffe. Faut pas dépasser une certaine température, sinon ça dénature le fromage et la préparation sera pas bonne.
Parce que ça, c'était une question que j'avais envie de vous poser. Est-ce qu'on peut cuire la mozzarella facilement ? Parce que souvent, effectivement, on la retrouve dans les pizzas, hein, la mozzarella, mais est-ce que c'est facile à cuire ?
Alors, la mozzarella dans les pizzas, c'est différent. Là, la mozzarella, c'est pas une mozzarella qui est fraîche. C'est une mozzarella plutôt affinée. Donc là, elle n'a, pour moi, elle n'a pas spécialement son intérêt gustatif. Par contre, effectivement, on peut la retrouver dans les pizzas, mais elle ne sera pas cuite. En fait, le pizzaiolo va sortir sa pizza et va mettre quelques morceaux de mozzarella bufala dessus, mais elle ne sera pas cuite. Par contre, faut pas oublier que bon, la mozzarella, c'est un fromage qui est filé, en fait. Donc, on récupère le lait. Il faut à peu près 10 litres de lait pour faire 1 kilo de mozzarella. Et elle va être cuite à 80-90 degrés. Et là, on va obtenir une pâte. Et là, justement, elle va être étirée à la spatule en bois, justement pour avoir son côté filant. Et là, ils vont pouvoir la mettre en boule et la refroidir directement. Après, il y a une autre petite variante, c'est la mozzarella tressée, que l'on ne trouve quasiment pas du tout en France, qui a la forme un peu d'une brioche, en fait, une brioche vendéenne, qui, elle, par contre, est beaucoup plus éthérée, beaucoup plus filée, et c'est, la texture est pas du tout la même.
Alors, évidemment, on va savoir ce que vous faites, vous, avec la mozzarella, comment vous la servez du côté de votre restaurant, l'Auberge du Sens.
Donc moi, j'utilise pas la mozzarella di bufala, j'utilise de la scamorza.
Scamorza, hein, je note aussi, parce que c'est important, si on veut trouver le bon fromage.
Donc la scamorza, donc, j'en rappelle, c'est une mozzarella fumée, affinée pendant 15 jours. Donc celle-là, effectivement, elle est beaucoup plus dure. Donc là, on va la râper en gros morceaux. On va juste en mettre un petit peu au fond de l'assiette. On va faire un petit coulis de tomates. Des petites tomates cerises qu'on va peler au préalable. On va arroser un petit peu d'huile fumée et d'huile d'olive et servir ça avec un peu de truffe d'été puisqu'on est en plein dans la saison de la truffe d'été et ça fait une entrée qui est très très fraîche.
Ah, miam, 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 miam. Voilà, donc, c'était le chef, Alexandre Fichard, de l'Auberge du Sens, route de Rennes à Nantes. L'un de ces chefs que nous recevons régulièrement dans La Vie en Bleu, où on cuisine ensemble. Nous avons notre blogueuse culinaire, donc, Anne Lataillade, qui va nous rejoindre pour nous parler, donc, d'une recette avec des œufs. téléphone sur France Bleu Loire Océan. Nous allons faire le point sur la circulation et ensuite on continue de cuisiner ensemble dans La Vie en Bleu.
Jean-Jacques Lester, La Vie en Bleu. France Bleu. Sur France Bleu Loire-Océan, cet été, la chasse au trésor. À l'occasion de la grande exposition du château de Châteaubriant, Loire-Atlantique, terre des trésors, découvrez 16 trésors emblématiques du département. Des histoires souvent insolites, racontées par Gilles Dassalin et Jean-Jacques Lester, samedi et dimanche à 7h45 et 18h45.
Excusez-moi, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, les enfants. Petite seconde, voilà. Ne pas vous embêter, c'est juste pour vous dire que si vous remplacez votre électroménager cet été, vous pouvez confier l'ancien au livreur. Ce service proposé par votre magasin est gratuit d'ailleurs, donc voilà. Voilà, bah merci de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon...
Cet été, libérez-vous l'esprit. Faites le vide dans vos placards, caves et greniers en recyclant vos appareils électriques hors d'usage. Toutes les solutions de recyclage sur écosystème.fr. De Cheviré au pont de Bellevue, de la place Mélinette au Vieux Doulon.
France Bleu Loire-Océan. On est bien ensemble.
France Bleu Loire-Océan, on fait la route ensemble avec vos infos 02 40 73 6000. La journée a été classée orange dans le sens des retours par bison futé ce dimanche. On attend donc encore des soucis de circulation sur le périphérique nantais. Et n'oubliez pas aussi, avec ce meeting aérien avec la patrouille de France, donc à Pornichet, il y a des restrictions de circulation et de stationnement. Et cet après-midi, il va y avoir du monde donc sur le remblai de la Ball pour assister à ce spectacle. Actuellement, vous avez un ralentissement donc au niveau de la route de Cholet pour aller en direction du pont de Bellevue. C'est au niveau juste avant d'emprunter le pont de Bellevue que vous pouvez rencontrer des problèmes de circulation donc pour passer au nord, et ce serait dû à une collision.
On fait la route ensemble avec Planète Sauvage, le safari park près de Nantes. Sortez des sentiers battus. www.planetesauvage.com.
Tout l'été, elle nous accompagne. Donc, c'est cette blogueuse culinaire, Anne Lataillade.
Les œufs, on en a toujours à la maison. C'est un ingrédient qui est basique, qui est facile à cuisiner. Et je trouve qu'il est très pratique pour les jours où on a un petit peu la flemme de se mettre au fourneau. Donc, quelques conseils d'achat pour ces œufs. D'abord, on regarde la date limite de consommation. Et ensuite, on regarde un chiffre qui est très important. C'est celui qui est tatoué sur les œufs. Qu'est-ce qu'il dit, ce chiffre? C'est le mode d'élevage de la poule. Donc, 0, c'est une poule qui est élevée en bio. 3, c'est l'élevage intensif. Donc, vraiment, n'achetez pas du 3. C'est pourtant 80% des œufs qui sont vendus aujourd'hui. Mais, s'il vous plaît, n'achetez pas ça. C'est des poules qui vont jamais dehors, qui vivent dans des cages. Enfin, bref, voilà. On achète du 0 ou du 1. Comment on cuit les œufs? Alors là, les possibilités sont infinies. Il y a les œufs durs, bien sûr, 10 minutes de cuisson à l'eau bouillante. Mollet, ça va être 6 minutes à l'eau bouillante également, dans une petite salade, c'est excellent. À la coque, 3 minutes. Après, vous les servez avec des mouillettes, du pain, du beurre. Vous pouvez même mettre du beurre au piment d'Espelette, il n'y a pas mieux. On peut aussi faire des œufs brouillés. Je trouve que c'est génial pour les brunchs, les dimanches d'été, on a un petit peu de temps. Donc là, c'est très facile à faire. On casse les œufs, on va compter à peu près un œuf par personne. Donc on les casse dans la casserole. On les fait cuire tout doucement, mélangeant constamment pour bien les brouiller. Et une fois qu'ils sont bien cuits, on va ajouter une bonne cuillère à soupe de crème fraîche épaisse. Et là, c'est super. Vous servez ça tout de suite, c'est délicieux. Et puis, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la recette que je fais tous les dimanches soirs, c'est les œufs cocottes. Donc, c'est très simple, il faut des petits ramequins. Vous cassez un œuf par ramequin, vous ajoutez une cuillère à soupe par ramequin également de crème fraîche épaisse, et puis après, vous garnissez vraiment de ce que vous avez. Soit vous finissez les restes du frigo, soit alors vous mettez du saumon frais ou fumé, vous pouvez mettre des lardons, vous pouvez mettre des champignons, des herbes, des petits bouts de chorizo, c'est très bon. L'article 1, quand il y a du chorizo, c'est bon. Et vous mettez ça pendant 12-15 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Alors j'ai une petite astuce pour la cuisson, c'est que vous allez commencer par séparer le jaune du blanc, parce que des fois quand on fait cuire ses œufs cocottes, le jaune est trop cuit, le blanc pas assez. Donc vous faites cuire d'abord le blanc, et quand il est pris, vous allez voir au bout de 6-7 minutes, vous rajoutez le jaune. Et là vous pouvez dire, je suis la reine de l'œuf cocotte.
Le marché d'Anne Lataillade.
à podcaster sur francebleu.fr.
Alors d'abord, au début, c'est juste le blanc, hein, comme dans le dîner de con. Et voilà. Donc, c'était les bons conseils d'Anne Lataillade. Et demain, vous allez voir, elle va vous épater avec des pâtes. D'ici quelques minutes, donc, le bon plan pour la semaine prochaine, si vous êtes gourmand, c'est un marché donc de producteurs festifs qui est prévu mercredi prochain à Vigneux de Bretagne.